Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. On regrette parfois qu'elle nous fasse défaut. On la voudrait plutôt infaillible, plus étendue. Sans elle, nous serions tout simplement perdus. C'est à notre mémoire que nous allons nous intéresser aujourd'hui et plus particulièrement aux prouesses que certains parviennent à faire avec elle. Il existe même dans le monde des championnats de mémoire. Les concurrents parviennent à retenir plus de 300 chiffres en 7 minutes ou l'ordre d'un jeu de 52 cartes en moins de 30 secondes. Alors ce genre de performance demande-t-elle des prédispositions particulières ? Il semblerait que cela soit avant tout une question de technique et d'entraînement. Autrement dit, en s'exerçant, la plupart d'entre nous devraient être capables de faire des prouesses presque aussi spectaculaires. Alors en quoi consistent ces techniques ? Comment fonctionne notre mémoire et comment l'entraîner ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités que je vous présente. Cécile Bonneau, vous êtes rédactrice en chef du hors-série Science et Vie. Bonjour Cécile Bonneau.
Bonjour.
Alors le dernier hors-série de Science et Vie a pour thème la mémoire, ses secrets et ses troubles. Et vous avez interrogé de nombreux spécialistes pour ce numéro, dont Francis Eustache, qui est également avec nous autour de la table. Neuropsychologue, vous dirigez l'unité de recherche INSERM de neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine. C'est à l'université de Caen, Basse-Normandie. Bonjour Francis Eustache.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes aussi président du conseil scientifique de l'observatoire B2V des mémoires, qui organise d'ailleurs très bientôt la semaine de la mémoire à Caen. Ce sera du 15 au 20 septembre prochain. On aura l'occasion d'en dire quelques mots à la fin de cette émission. Et Francis Eustache, eh bien, nous serons heureux d'avoir vos lumières sur les techniques de mémorisation qu'utilisent nos deux derniers invités. Ils sont mnémonistes, oui, ça existe, Bruno Martin et Timothée Béra. En l'espace de quelques années, vous avez réussi à développer une mémoire aux capacités hors du commun. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors Timothée Béra, vous avez fait une thèse sur les processus d'encodage de la mémoire. Et puis vous, Bruno Martin, une thèse en psychologie cognitive, et cela vous a conduit à appliquer des petites techniques de mémorisation qui vous permettent de faire donc des choses assez surprenantes avec votre mémoire et pas uniquement retenir des chiffres, ça peut même servir pour apprendre le japonais, c'est ce qu'on verra avec vous. Vous nous expliquerez en quoi consistent ces techniques de mémorisation dans cette émission. Les auditeurs peuvent vous adresser leurs questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou via Twitter en utilisant le hashtag l'attaque. Et puis nous terminerons l'émission avec Florence Porcel et le quiz scientifique de La Tête au Carré, comme tous les jours, du lundi au jeudi, depuis la rentrée. Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisé par Violaine Ballet et préparé par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Et on commence, comme toujours, avec le fait scientifique du jour. Bonjour Dominique Dupagne.
Bonjour.
Alors, vous avez décidé de nous parler aujourd'hui, de nous donner des nouvelles du front concernant Pediculus humanus.
Et oui Daniel, le quiz débute avant l'heure et certains de nos auditeurs ont immédiatement identifié le pou, responsable d'une infestation du cuir chevelu appelée pediculose. Pediculus signifie petit pied, mais je n'ai pas réussi à savoir pourquoi les Romains avaient dénommé les poux ainsi.
Oui, en même temps, s'ils avaient des grands pieds, ça serait peut-être moins inaperçu. Enfin, les auditeurs peuvent essayer de trouver une explication peut-être plus convaincante.
C'est peut-être la pointure, c'est peut-être ça. Mais en tout cas...
Sinon, oui, quoi de neuf donc, dans le traitement de la pédiculose capillaire en cette période de rentrée scolaire ?
Eh bien, des bonnes nouvelles, Daniel, de bonnes nouvelles. Je vais vous parler de la remise au goût du jour des traitements physiques connus de longue date qui avaient été abandonnés au profit des insecticides d'emploi plus simple, mais qui sont de moins en moins efficaces sur des poux qui sont devenus résistants.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par traitement physique ?
Eh bien, au lieu d'empoisonner les poux et les lentes, on les étouffe, comme si on leur mettait un oreiller sur la tête. L'objectif est d'obstruer leurs orifices respiratoires avec un corps gras. Car si le pou ne craint pas l'eau et sait nager en apnée, il n'aime pas du tout l'huile. Mais avant d'en venir aux nouveautés pharmaceutiques, je vais rappeler le traitement traditionnel et très efficace qui consiste à traiter les cheveux toute la nuit avec de l'huile de coco.
Ah oui, un petit parfum de vacances dans les classes, ah non, ça va sentir les plages.
Non Daniel, vous comprenez avec le monoï qui est parfumé à la fleur de thierry tahitienne. Moi je vous parle de l'huile de coco raffinée qui est inodore et qui est vendue dans toutes les épiceries africaines où on la trouve à moins de 10 euros le litre. En fait, il faut commencer par la faire tiédir car elle se solidifie en dessous de 26 degrés. Ensuite, il faut l'appliquer largement jusqu'à saturer complètement les cheveux. Il faut que ça coule dans le cou, hein. Il ne faut pas hésiter à mettre la dose. Prévoyez ensuite, bien sûr, un bonnet de coton pour la nuit et une serviette de bain ou deux sur l'oreiller pour éviter les taches. Le lendemain matin, il suffit d'un shampoing ordinaire suivi d'un produit démêlant et d'un brossage pour que ça soit parti. Cette technique efficace et peu coûteuse que je conseille depuis des années à mes patients est malheureusement, bien sûr, astreignante et salissante. En fait, les nouveaux produits anti-poux vendus en pharmacie s'inspirent de ce procédé et contiennent des huiles minérales ou des silicones huileux, mais ils sont associés à des agents mouillants qui optimisent leur pénétration dans les orifices respiratoires des poux et des lentes en détruisant les microbulles d'air qui pourraient les protéger. C'est une sorte d'anti-mousse. Du coup, un traitement d'une heure seulement est suffisant, ce qui est bien sûr plus simple que le procédé nocturne à l'huile de coco.
Oui, parce que pour que l'huile de coco agisse, il faut vraiment que ça dure toute
exactement,
la nuit.
Il faut que ça mouille longtemps, alors qu'avec le produit, ça va plus vite. Ouais. Et surtout, il est inutile de martyriser les enfants avec des peignes à poux, car ces poux vont tomber d'eux-mêmes, ils vont mourir, et seules les lentes mortes resteront attachées aux cheveux quelques semaines.
Donc l'huile étouffe aussi les lentes.
Hein. Absolument.
Ouais. Alors, on voit apparaître des résistances à ces produits ou pas ?
Non, non, et l'apparition de poux résistants supposerait des modifications anatomiques importantes, et c'est donc très improbable à court terme. Dans tous les cas, il est préférable quand même de renouveler ces traitements une semaine après, au cas où quelques lentes auraient survécu. Mais surtout, et j'insiste, il est inutile de laver ou de traiter le linge et les habits. Il suffit de les ranger 8 jours dans un placard ou un sac, car aucun poux et aucune lente ne peuvent survivre aussi longtemps loin du corps humain sans manger.
Ah, ça, c'est une excellente nouvelle. Vous êtes en train de faciliter la vie des familles nombreuses.
Je vois des gens qui passent leur temps à le pressing. Enfin, c'est une folie, alors qu'il suffit de les isoler. Et encore plus rapide, si vous disposez d'un sèche-linge, vous mettez votre linge dans un cycle de 10 minutes à sec, et ça chauffe assez, c'est-à-dire 50-60 degrés, pour tuer ces bestioles à coup sûr. 10 minutes de sèche-linge, c'est fini. Et bon, évidemment, c'est moins écologique que d'attendre. Hein. Oui. Enfin, attention quand même aux recontaminations familiales. Il faut traiter conjointement les frères et les sœurs, voire les parents, au moindre doute, en sachant que certains porteurs de poux ne ressentent pas de démangeaisons et on peut donc les ignorer.
Merci, docteur Dupagne. Vous allez faciliter la vie de toutes les familles en cette période de rentrée scolaire.
Le coco va être dévalisé partout.
Ouais, à la semaine prochaine, Dominique Dupagne. Après s'être intéressé aux parasites qui peuvent envahir nos cuirs chevelus, nous allons nous intéresser à ce qui se passe en dessous, dans notre cerveau, là où nous stockons nos souvenirs. Le dossier de la tête au carré est consacré à la mémoire. Comment l'entraîner et comment fonctionne-t-elle? On en parle avec nos invités dans un instant. Pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou Twitter avec le hashtag l'attaque. C'était Wilson Pickett in the Midnight Hour sur France Inter dans la tête au carré.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter. 300.
Vendredi dernier, Wang Feng, le champion du monde en titre de mémorisation, a remporté les 20e championnats mondiaux de mémoire à Guangzhou, dans le sud de la Chine, en battant simultanément plusieurs records mondiaux. Cet étudiant de 21 ans a explosé le record du monde dans la catégorie des chiffres dictés en se rappelant plus de 300 nombres sur 400, une amélioration de 100 nombres sur l'ancien record.
Et nous étions en décembre 2011, un championnat de mémoire en Chine. Pour parler des performances de ces champions de mémoire, nous sommes en compagnie de Francis Eustache, spécialiste de mémoire, neuropsychologue à l'université de Caen, Basse-Normandie, Bruno Martin et Timothée Béra, qui ont tous deux développé certaines capacités de leur mémoire à l'aide de techniques qu'ils vont nous expliquer, et Cécile Bonneau, rédactrice en chef du hors-série de Science et Vie, consacrée ce mois-ci à la mémoire. Et vous parlez, hein, Cécile, des concours de mémoire dans ce dernier hors-série de Science et Vie. Comment se déroulent exactement ces concours internationaux ?
Alors, il y a de multiples épreuves dans ces concours, donc, auxquelles participent de nombreux candidats. Alors, les différentes épreuves, c'est par exemple avoir un jeu de cartes, de 52 cartes, et le retenir en un temps limité. On peut aussi avoir des personnages avec des noms, il faut retenir les prénoms des gens. Alors chacun a un peu son point fort, son point faible. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à retenir les noms des gens, d'autres qui ont plus de mal avec les cartes. Et il y a aussi retenir des suites de nombres. Alors ça peut être des suites binaires, donc une série infinie de 0 et de 1, dont on se demande bien comment on peut faire pour les retenir. Ouais, Bruno
incroyable.
Excel à ce jeu. Ah non, c'est Timothée qui sait bien faire ça aussi. Donc des 0 et des 1, ou alors des suites de chiffres, souvent des chiffres des nombres de deux chiffres, et ça, les gens arrivent à les retenir dans des temps records. Alors
Bruno Martin, vous retenez combien de 0 et de 1 alternativement
Alors,
comme ça,
les 0 et les 1, je commence à m'entraîner.
Ouais.
D'habitude, moi, c'est plutôt les nombres. Et là, je dois être à peu près à peu près 200 0-1 qui se suivent.
On est d'accord, pas 0-1-0-1, c'est aléatoirement réparti,
hein,
sinon c'est relativement facile.
La stratégie pour apprendre les binaires, c'est les transformer en nombres. Et ensuite, une fois qu'on a les nombres, utiliser la stratégie qui s'appelle la méthode des lieux pour apprendre ces nombres-là.
On y reviendra à la méthode des lieux. Bon, je ne suis pas sûr qu'à chaque fois que vous allez nous dire c'est relativement simple, on va tous être d'accord avec le fait que c'est simple. On va essayer de comprendre évidemment vos techniques. Quel est le profil, Cécile, des gens qui participent à ces concours ?
Ben, ce sont des passionnés comme nos deux jeunes doctorants. Alors il y a eu une année, un candidat un peu original et qui a beaucoup contribué à populariser cette méthode. C'est un journaliste américain qui s'appelle Joshua Foer qui allait couvrir un championnat de mémoire aux États-Unis et qui était complètement étonné. Puis en même temps, il avait un petit peu du mal à écrire là-dessus parce que c'est pas très passionnant de regarder les gens réciter des chiffres. Et c'est pas le passage, il dit lui-même, hein, le passage le plus excitant, c'est quand quelqu'un se masse les tempes, par exemple.
Hein. Ah oui, effectivement,
c'est excitant. Il avait pas grand-chose à raconter. Et du coup, il a décidé de s'y mettre aussi, d'essayer lui-même de voir quelle était la technique.
Pas à se masser les tempes, à retenir les chiffres.
Des choses.
Et c'est vrai qu'on ne pourra pas tester trop nos deux intervenants, Bruno Martin et Timothée Béra, parce que effectivement, vous faire réciter 200 lignes de 0 et de 1 à l'antenne, on est obligé de vous croire sur parole, sur vos performances. Est-ce que il faut avoir un QI particulièrement développé, être quand même un certain savant ? On pense aussi à certains troubles autistiques qui donnent ce genre de compétences. Est-ce que ces gens-là ont ce profil-là ?
Alors justement, ces gens-là, non. Et c'est ce qu'a constaté ce journaliste. Il était très surpris quand il a dit à ces gens, mais vous êtes vraiment des génies. Ils ont dit, pas du tout, on peut vous entraîner et dans un an, vous serez champion de mémoire vous-même. Et de fait, il a remporté, un an après, les championnats de mémoire aux États-Unis, alors qu'il n'était pas particulièrement, il n'avait pas une très bonne mémoire. Il y a vraiment des techniques.
Ouais. C'est vraiment à la portée de n'importe qui, puisque même les journalistes
s'y mettent. Alors j'ai même moi-même essayé de m'y mettre, j'arrive à retenir quelques petits trucs.
Francis Eustache, dans quelle mesure intelligence et mémoire sont liées ?
Je pense que ce sont deux notions tout de même qui sont liées. Alors certes, ces champions de mémoire, de façon générale, je ne parle pas de nos deux doctorants ici, évidemment, qui font des études très, très poussées, mais de façon générale, il n'y a pas de lien entre ces champions de mémoire et l'intelligence, hein, si on peut la définir. Il n'y a pas de corrélation évidente pour ce type d'exercice, mémoriser des chiffres, des séries de chiffres ou des choses de cette façon. Par contre, je pense que si on étend ce domaine de la mémoire à des aspects beaucoup plus complexes, à une mémoire sémantique, à des connaissances générales sur le monde. Alors là, je pense qu'on peut dire que la mémoire, c'est tout de même un des grands aliments de la pensée et de l'intelligence. Et je pense qu'en cela, votre émission est aussi très intéressante, le fait de réfléchir à la mémoire aujourd'hui, et que cette mémoire, elle est indispensable pas simplement à connaître notre passé, mais également à nous préparer pour l'avenir. Et en ce sens-là, la mémoire est liée à l'intelligence.
Ouais. Alors, on va avec vous, évidemment, prendre le temps dans un instant d'essayer de voir les différentes formes de mémoire qui se côtoient dans notre tête, parce qu'elles se répondent. On va voir que pour stocker un souvenir, on fait appel à plusieurs formes de mémoire. Tout ça est assez complexe. On va faire un petit test, parce que on le dit depuis tout à l'heure, il y a des techniques particulières, il suffit de les apprendre, et puis ensuite, il faut s'entraîner. On va quand même mettre à l'épreuve l'un de nos deux invités, Bruno Martin. Vous prétendez avoir connaître les 500 chiffres qui suivent la virgule dans le nombre pi. C'est-à-dire que le commun des mortels connaît 3,14, mais après le 14, il y a encore une infinité de chiffres. Et vous connaissez les 500 chiffres qui suivent cette virgule. Alors, si je vous demande le chiffre en 181e position après la virgule, qu'est-ce que vous me répondez ? C'est Bruno Martin.
Le 6.
C'est ça, et ensuite
voilà. 4, 46, 22, 94, 89.
C'est exactement ça. Voilà, on va s'arrêter là pour éviter d'endormir tous nos auditeurs, mais il n'y a pas une seule erreur. Alors, déjà, combien de temps cela vous a demandé d'apprendre ces 500 chiffres qui ne signifient rien, qui n'ont aucune signification, hein, et comment vous les avez retenus? Quelle méthode avez-vous employée?
Alors, je m'y suis mis ce week-end, justement, pour l'épreuve, pour me préparer pour aujourd'hui.
Ah bon, ben voilà.
Et en fait, le principe, c'est mettre des images dans des lieux, en fait. Les 10 décimales que je vous ai données, en réalité, pour moi, ce n'est pas des chiffres, c'est des personnages qui font des actions sur d'autres personnages. Et ces personnages-là me rappellent les nombres en question que je viens de vous réciter.
Alors, on peut prendre un exemple précis, parce que là, c'est un peu peut-être obscur.
Par exemple, prenons les toutes premières décimales de pi. Donc, je les ai mis dans mon tout premier lieu. Ce lieu-là va contenir les 10 décimales qui arrivent. Et je vais avoir un premier personnage. C'est mon ancienne maître de stage. Et son nombre associé, c'est 14. Donc, vous voyez, j'ai commencé à avoir les deux premières décimales. Et ensuite, l'action qu'elle va faire, ça va être griffer quelqu'un. Et quelqu'un, griffé, c'est le nombre 15. Donc vous voyez, progressivement, je commence à avoir mes décimales. Donc elle va griffer un ami à moi qui était dans la même école d'ingénieur. Et ensuite, une fois ayant griffé cet ami, elle va cracher. Je suis désolé, hein, c'est peut-être un peu choquant, mais elle va cracher donc, sur un autre ami qui, d'ailleurs, pour l'anecdote, a fait son stage aussi avec elle et ça s'est mal passé. Donc vous voyez,
alors, ces 5 choses-là... Alors je suis sûr que pour les auditeurs qui vous entendent, on se dit, mais c'est encore plus compliqué,
non,
plutôt que de l'apprendre
pas.
Par cœur, de faire une correspondance entre chaque chiffre et une personne, puis une action, et puis ensuite de se dérouler toute une histoire. Vous avez commencé par dire, il y a un lieu, parce qu'en plus, pour bien avoir l'ordre chronologique des chiffres, vous situez cette histoire dans un lieu que vous connaissez, ça peut être une maison. Donc vous vous racontez toute une histoire et c'est au fil de cette histoire que vous reconstituez le chiffre. C'est de cette manière, lorsque je vous ai demandé le 181e chiffre après la virgule, que vous y êtes pris pour restituer la dizaine de chiffres en reprenant l'histoire là
c'est
où
ça,
elle commence.
Au 18e lieu.
Oui. Ouais. Vous procédez de la même façon, Timothée Béra?
Ah oui, tout à fait. Cette méthode, la méthode des lieux, je pense que c'est la seule qui permet d'apprendre autant de chiffres aussi simplement.
Et avec aussi des... Donnez un exemple, parce que je crois que vous utilisez plutôt des gens connus. Ce qui est... Alors par exemple, si je vous dis 18, vous l'associez à quoi?
Alors 18, c'est un ami, donc ça va
ça marche
un
pas.
Peu difficile.
Bon, bah alors 16.
Mais 16, c'est Benoît XVI, l'ancien pape. Et donc j'associe chaque nombre à deux chiffres à une personne qui fait une action. Et donc, en utilisant la personne, puis l'action d'une autre personne, je peux mémoriser 4 chiffres en une seule image. Et donc, si je vous demande de fermer les yeux et de vous imaginer dans votre chambre et de voir Charlie Chaplin prendre un bain, vous pouvez le faire très rapidement. Et je vous assure, si vous repensez à votre chambre plus tard, vous allez vous en rappeler. Et pour moi, ça représente 4 chiffres.
Mais je veux bien croire que ça marche pour retenir un code, à la limite un numéro de téléphone, mais pour retenir 500 chiffres. L'histoire que vous vous racontez doit être déjà complètement absurde, parce que si elle fait intervenir Charlie Chaplin, Benoît XVI et j'en passe, et ensuite elle doit être très très longue cette histoire.
Donc là, l'ingrédient qu'il nous faut, c'est un parcours avec différents lieux dans lesquels on va regarder pour retrouver, on va regarder dans l'ordre les différents lieux qu'on s'est donné pour retrouver les... Alors ça peut être des nombres ou tout type d'informations, tant qu'on arrive à le mettre en images. Donc il y a deux ingrédients, c'est des images qu'on peut placer dans des lieux mentaux, et un parcours. Alors des parcours, vous en faites tous les jours. Vous pouvez vous réveiller le matin et vous déplacer dans votre appartement, aller jusqu'à la boulangerie, puis jusqu'à votre lieu de travail. Donc tous les jours, on a plusieurs parcours et en fait on se rend compte qu'on s'en rappelle très bien. Et si on, même des endroits où on était en vacances, on peut se rappeler quelques itinéraires.
La maison de son enfance, par exemple, on s'en rappelle extrêmement bien parce qu'on a une mémoire qui justement est très forte au niveau des détails de ce qui nous entoure.
Cécile Bonneau, cette stratégie mnémotechnique un peu surprenante hein, quand on la découvre là, cette méthode des lieux, elle ne date pas d'hier hein, pourtant.
Non, pas du tout. Oui, c'est la légende. Je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être ça date même encore d'avant. C'est qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, un poète qui était invité dans un palais par un noble après avoir fait un discours est sorti du palais et là le palais s'est effondré sur tous les convives et personne ne savait plus exactement qui était dans ce palais et lui en se concentrant il a réussi à revoir la table du banquet et en visualisant les convives il a réussi à retrouver tous les noms et c'est comme ça qu'a été développée cette méthode des lieux. On se dit qu'en visualisant un lieu on peut tout à fait stocker des informations importantes. Là en visualisant ce palais il arrivait à avoir stocké en fait toutes les informations concernant l'identité des personnes présentes. Et si vous, par exemple, vous replongez dans votre maison d'enfance, vous allez vous rendre compte que vous avez emmagasiné une foule de détails très précis dans votre mémoire. Par exemple, vous vous rappelez la couleur du tapis d'entrée, la forme de la porte, de la poignée de la porte d'entrée, le porte-manteau juste à droite, la fenêtre juste après. Mm-hmm. Et en fait,
on utilise la mémoire spatiale, qui est apparemment une bonne mémoire.
Mais qui est extrêmement... quand on commence à y réfléchir, c'est incroyable le nombre de lieux, parce qu'il y a votre maison d'enfance, la maison de votre tante, la maison de votre grand-mère. Enfin, il y a une infinité de lieux desquels vous avez une mémoire très précise. Et ces lieux vont vous servir à mentalement stocker de l'information. Et vous disiez, ces petites scénettes, elles sont complètement absurdes, loufoques, Charlie Chaplin. Mais justement, plus les scénettes que vous allez stocker dans votre lieu sont absurdes, sont marquantes, mieux vous allez les retenir.
Ouais, on le sait, hein, l'émotion que suscite un événement, c'est aussi ce qui fait qu'on le retient de façon d'autant plus forte. Francis Eustache, quel regard, le spécialiste de la mémoire. Je rappelle que vous êtes directeur d'une unité qui cherche sur la mémoire humaine. Quel regard vous portez sur ces petits moyens mnémotechniques? C'est un gadget ou vraiment vous arrivez à essayer d'imaginer pourquoi ça fonctionne si bien dans notre cerveau?
Alors, c'est surtout pas un gadget. Moi, je suis impressionné par les performances de Bruno et de Timothée. Et je pense que ça permet d'insister sur une des qualités de la mémoire, c'est sa puissance. On voit avec leurs exercices la puissance de la mémoire, jusqu'où on peut aller. Certes, avec un entraînement, avec du travail. Vous avez travaillé dimanche pour cet exercice précis, puis vous travaillez depuis longtemps. Donc, il y a cet aspect, je trouve, qui est très intéressant. Et puis, il y a ce que vous venez d'expliquer là. En fait, on peut mettre ça dans différents mots, mais on voit quelques caractéristiques de la mémoire, de beaucoup d'animaux et de la mémoire humaine aussi. On est assez proche des animaux sur ce plan de l'instrument de la mémoire, l'outil de la mémoire, à savoir qu'est-ce que vous faites, vous donnez du sens et vous mettez des images. Ce sont des images qui ont du sens, même si c'est un sens un peu loufoque, on rejoint un peu la science-fiction, mais c'est quand même une histoire qui a du sens. Et c'est le gros l'aspect peut-être le plus important. Et ce sens, vous le mettez dans l'espace. Et comme vous venez de le dire, Cécile, c'est très important parce que la région de notre cerveau qui est cruciale pour la mémoire, qui s'appelle l'hippocampe, eh bien, ces hippocampes sont à la fois doués pour la mémoire et pour l'espace. Et ça, et également dans l'espèce humaine. C'est vrai chez beaucoup d'animaux, mais c'est resté vrai dans l'espèce humaine. Et donc, vous utilisez ces aspects-là. Et puis, le petit truc peut-être le plus subtil, c'est que vous adoptez une chronologie. Et ça, c'est là où le cerveau est un peu moins fort. Et donc, en vous promenant dans la maison ou ailleurs, ou dans un système spatial un petit peu plus compliqué, eh bien, vous réussissez à restituer cette chronologie, qui est un des éléments tout de même les plus difficiles à mémoriser. Et puis, vous venez de parler, Cécile, des maisons de vacances, etc. Un petit ingrédient d'émotion en plus. Le côté ludique, quelque chose d'humoristique, fait que vous allez encore rehausser la puissance de la mémoire. Donc moi, je ne prends pas du tout ça comme un gadget. C'est un exemple hein, de tout à fait fascinant hein, de ces capacités mnésiques.
Oui. Quelles sont les différentes zones et les différents systèmes même de la mémoire humaine?
Alors, dans cet exercice, en fait, il y a beaucoup de systèmes. C'est ce que vous faites, c'est que vous arrivez à mettre en jeu dans un temps très court, différents systèmes de mémoire. Parce qu'il y a des aspects que vous avez automatisés, au fil du temps. Donc là, on est dans quelque chose qui ressemble à la mémoire procédurale, à la mémoire des habitudes, parce que vous retrouvez en fait des vieux amis ou des séries que vous connaissez déjà, vous vous retrouvez dans un cycle automatisé. Bon, il y a les mémoires perceptives, parce que là aussi, vous retrouvez des images. Votre truc, c'est de vous remettre le système dans un univers connu, hein, qui vous procure en quelque sorte des flashs. Et puis, le jeu subtil qui est très étonnant, qui est très impressionnant hein, pour quand on vous écoute, quand on vous voit, c'est que vous donnez du sens sur quelque chose qui n'en a pas au départ, mm-hmm. ou très peu, parce que des listes de chiffres, les décimales de pi, c'est pas...
Alors, ça peut être utile d'ailleurs pour eux. Quelque chose de plus intéressant que les décimales de pi, en tout cas de plus utile, notamment pour la liste de courses. Alors, Timothée Béra, donnez-nous un exemple. Comment, grâce à cette façon d'organiser sa mémoire, on peut mémoriser quelques éléments d'une liste de courses ?
Alors, je ne suis pas sûr qu'une liste de courses soit plus utile, puisqu'on peut la noter tout simplement sur un bout de papier. Mais il suffit, si vous voulez acheter des cotons-tiges, vous pouvez vous réveiller dans votre chambre et voir des cotons-tiges envahir votre chambre, puis... Ou alors un concombre, se battre avec des cotons-tiges.
Voilà, vous risquez d'acheter un concombre.
Si vous voulez acheter juste des cotons-tiges, vous ne mettez pas de concombre, effectivement. Mais...
Des scènes marquantes qui mettent en scène l'objet que l'on va devoir acheter. Et pour une longue liste de courses, vous fonctionnez comme ça parfois ?
Alors moi, je préfère utiliser le papier pour apprendre une liste de courses. Ouais. Donc effectivement, ça montre bien que même les mnémonistes n'utilisent pas forcément leur technique pour apprendre des choses quotidiennes qu'on peut remplacer par... une liste.
Allez, on continue d'explorer les méandres de notre mémoire et les techniques qui permettent d'en augmenter les capacités. Et dans la suite de l'émission, nos invités vont répondre aux questions des auditeurs que nous recevons sur la page de l'émission sur franceinter.fr et sur Twitter avec le hashtag l'attaque.
Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Qui est comme à la crête, tout détonné, tout me plaît. Les mains sont livides, vides, vides. Mains sont livides, vides, vides. Le sol de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. Âme et solitudes immenses, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. Patience comme certitude, collier à trois fils, 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 lié à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. Partenaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Et cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station. Just wanna stay with you.
Christine and the Queen, c'était Saint-Claude dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Et Patrice Biodet sur Internet nous dit « J'ai oublié le sujet de l'émission, pouvez-vous m'aider ?» Eh bien oui, on s'intéresse à la mémoire aujourd'hui dans La Tête au Carré avec Cécile Bonneau, rédactrice en chef du hors-série de Science et Vie consacrée à la mémoire ce mois-ci. Nous sommes aussi en compagnie de Francis Eustache, spécialiste de la mémoire, neuropsychologue à l'université de Caen, Basse-Normandie. Et puis Bruno Martin et Timothée Béra qui ont tous deux développé certaines capacités de leur mémoire à l'aide de techniques qu'ils ont commencé à nous expliquer. Alors, on l'a vu, ça peut servir pour des listes de courses, pour retenir le nombre pi, mais cela peut aussi servir pour apprendre des choses, et notamment pour apprendre le japonais, je crois, Timothée Béra. Racontez-nous comment vous avez appris ces idéogrammes japonais.
Alors, c'est un assez long périple, mais les japonais, donc la manière classique d'apprendre les caractères japonais, c'est de prendre le plus fréquent et de le recopier un certain nombre de fois, puis de prendre le deuxième plus fréquent, puis à nouveau de le recopier à la main. Et bon, ça c'est un apprentissage qui met des années, une dizaine d'années pour les Japonais eux-mêmes, et la plupart des gens qui apprennent le japonais sans pas de naissance, pas comme langue maternelle, n'y arrivent jamais. Et donc bon, c'est un peu désespérant, mais non, parce que bon, les caractères japonais c'est les mêmes que les caractères chinois, il y en a 2000 à connaître pour pouvoir lire le japonais de manière courante, et sur les 2000... En fait, les 2000 sont composés d'un certain nombre de sous-éléments. Donc, on peut appeler des clés, et il n'y a que 200 éléments à recombiner. Donc, moi, j'ai associé à chacun de ces éléments, de ces 200 éléments, une image que je connais bien. Donc, c'est un travail long, hein, évidemment, apprendre 200 associations entre une image et un élément de caractère japonais. Ça prend du temps.
Et ça, c'est déjà un exercice de mémoire, ces associations, il faut les retenir.
C'est effectivement déjà un exercice de mémoire et c'est le travail le plus fastidieux. Mais après, en recombinant les différentes images qui représentent chaque élément, je peux former des images qui vont représenter chaque caractère. Et donc en un an, j'ai réussi, en travaillant à peu près une heure par jour, à apprendre à reconnaître les 2000 caractères utilisés en japonais. Alors, apprendre à les reconnaître, ça ne veut pas dire que je sais les lire en japonais, mais je peux donner un mot français à chacun de ces caractères. Et donc, ça va beaucoup m'aider pour, effectivement, apprendre à parler japonais.
Alors, Elisa Julien, toujours sur Internet, nous demande « Je suis enseignante et j'aimerais savoir s'il existe une méthode pour aider les enfants dont la mémoire fonctionne comme une ardoise magique. Ils comprennent et intègrent provisoirement les notions, mais le lendemain, ils ne peuvent rien en restituer. » Francis Eustache, est-ce qu'on peut utiliser les techniques que nous avons un peu évoquées dans cette émission avec les enfants, par exemple?
Alors, c'est ce qu'explique Timothée. Je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'il a d'abord explicité ses techniques de base avec le principe des images mentales, de l'espace, etc. Et puis ensuite, il le transpose à quelque chose de plus complexe où on rejoint là les apprentissages scolaires, même si tous les enfants n'apprennent pas le japonais, mais on est sur quelque chose de plus proche. Et là, on approche des associations. Et là, on est vraiment dans le domaine de l'apprentissage percé. Et là, c'est vraiment très intéressant. Et la question de l'enseignante, on peut répondre de façon plus générale qu'il y a effectivement des moyens d'améliorer la mémoire. Il y a une réflexion qu'on doit avoir sur la mémoire aujourd'hui. Bon, il y a une qualité de vie à respecter. Il faut revenir à des fondamentaux, la qualité du sommeil. Le fait de donner du sens aux informations, ça a été très bien dit à la fois par Bruno et par Timothée. Donner du sens aux informations, c'est-à-dire que chaque leçon ne soit pas isolée, mais soit bien mise en relation avec les leçons qui précèdent et avec une envie d'en savoir plus par la suite. Ça, c'est tout l'art. On a parlé de l'art de la mémoire, mais c'est aussi l'art de l'enseignement, hein, de préparer tout cela. Alors oui, il y a effectivement des techniques, mais il n'y a pas une technique. Mm-hmm. Hein, il y a différentes méthodes et que l'enfant doit s'approprier progressivement. On voit bien que il y a des constantes entre la technique de Bruno et la technique de Timothée, mais en même temps, chacun d'entre eux s'approprie, donne ses propres recettes en même temps. Mm-hmm. Et l'art de la mémoire, c'est ça. Quand on lit d'ailleurs le livre, hein, l'art de la mémoire, qui est un magnifique livre écrit par une historienne, Frances Yates, elle montre bien la multiplicité des variantes. Ces variantes sont adaptées aussi à des thèmes différents, à des sujets différents, parce que la mémoire, il y a cet instrument, il y a cet outil. Certains parlent d'un muscle. Moi, j'aime pas trop l'idée de muscle. Et puis, il y a les contenus qui sont très différents. Et selon les contenus, eh bien, on va adapter différentes techniques.
Oui. L'entraînement, c'est une question de Jérôme, toujours sur Internet. L'entraînement aux techniques de mémorisation telles qu'elles sont habituellement présentées permet-il d'améliorer sa mémoire générale, de mieux mémoriser les informations et savoir à qui au quotidien? C'est une question, Cécile Bonneau, qu'on peut se poser. C'est-à-dire que utiliser toutes ces techniques pour retenir une liste de courses, une liste de chiffres ou apprendre une langue, est-ce que ces personnes ont ensuite une meilleure mémoire de ce qui leur arrive dans la vie?
Je ne crois pas. Non,
des
je,
meilleurs souvenirs
sous le contrôle de Francis Lach. Mais je ne crois pas. Je pense que ces techniques, elles apprennent à mieux se servir de ces techniques. C'est-à-dire que c'est vrai que plus on s'entraîne, plus on va avoir la possibilité de rapidement retenir une liste de courses. Dans le cas le plus basique, les idéogrammes japonais dans le cas plus élaboré de Timothée. Donc on va réussir à améliorer sa technique de réussir à apprendre une liste d'items, mais ça n'a pas d'impact, je pense, sur la mémoire autobiographique ou sur les souvenirs en général.
Alors Bruno Martin, est-ce que vous nous confirmez que avec cet entraînement que vous vous imposez pour travailler votre mémoire, vous n'avez pas pour la vie de tous les jours une mémoire d'éléphant de ce qui vous arrive?
Alors ça n'a absolument rien changé. Avant ces techniques de mémorisation, j'étais la personne la plus étourdie et tête en l'air de mes connaissances, et je le suis toujours.
C'est vrai.
Donc oui, la méthode
c'est
des lieux.
C'est assez décevant finalement.
Mais oui, mais la méthode des lieux, voilà, c'est un apprentissage très systématique, très conscient, très explicite, et les choses de la vie de tous les jours, c'est plutôt implicite et des choses comme
ça. Ça s'explique, Francis Eustache, ça?
Oui, parce que là, c'est vraiment dans l'exemple de Bruno, c'est vraiment forger une compétence extrêmement spécialisée. Donc cette compétence spécialisée, elle est presque enquistée. C'est un type de savoir très particulier. Je pense que la démarche que vient de nous expliquer Timothée est d'un ordre un petit peu différent. Parce que là, il y a la volonté de transposer. Il y a toute une réflexion de transposer ces moyens mnémotechniques qui sont assez proches au départ, mais vers des situations plus complexes qui demandent cette fois-ci de forger des associations complexes. Mmh. Et avec un travail en continu, puisque vous avez bien parlé que cet apprentissage du japonais, des idéogrammes japonais, vous êtes sur cette question-là depuis plus d'un an. Donc là, on est vraiment dans un système à long terme et un système extrêmement élaboré. Mmh. Et donc, dans ce sens-là, je pense qu'il faut faire surgir l'idée qu'on a une action potentielle sur notre mémoire et sur une mémoire cette fois-ci au sens plein du terme.
C'est-à-dire à plus long terme
C'est-à-dire que nous sommes, nous humains, capables de modifier le sens des choses et la puissance de notre mémoire. Et c'est toute la notion de réserve cérébrale, de réserve cognitive qui est très importante.
Alors,
aujourd'hui quand on parle des maladies de la mémoire.
Voilà, c'est-à-dire une notion assez nouvelle.
Oui, c'est une notion assez nouvelle qui était d'abord sur un terrain un petit peu flou sur le plan scientifique. Et maintenant, il y a des arguments qui viennent de différents domaines des neurosciences, à la fois les neurosciences cognitives, l'imagerie cérébrale, la neuroépidémiologie, et puis également des travaux chez l'animal avec la notion d'environnement enrichi, à savoir que quand on place des animaux dans un environnement enrichi, c'est-à-dire avec des congénères, avec des jeux, des choses qui changent tous les jours, eh bien ces animaux vieillissent mieux. Mmh. Et nous, humains, qu'est-ce qui se passe quand on est mis dans un environnement qui est plus stimulant, c'est-à-dire quand on est éduqué, quand on a la chance d'avoir des professions qui nous tirent plutôt vers le haut? Et ça, c'est un changement assez récent, ouais, notamment chez les femmes.
Alors ça, pour être très concret, ça veut dire que si on fait de longues études, on a des chances d'avoir une mémoire qui s'abîmera moins vite.
Alors, ce n'est pas forcément des longues études, c'est d'abord avoir un accès à l'éducation, ouais, ce qui n'était pas le cas il y a une centaine d'années pour tout le monde. Et on a vu le changement en épidémiologie, c'est un résultat quand même majeur, c'est que les chiffres de prévalence de la maladie d'Alzheimer dans les pays du Nord ont tendance à diminuer. Ça, c'est une nouvelle tout à fait extraordinaire. Et c'est lié au fait, c'est notamment chez les femmes, c'est le fait que les petites filles qui ont maintenant 70-80 ans, eh bien, ont changé de système scolaire, elles sont allées à l'école, mmh, elles ont accédé à des responsabilités dans leur travail, sans forcément faire des études très longues. Ouais. Et ça a un effet sur, aujourd'hui, la prévalence de cette maladie. Ah ouais. Donc, ce qui veut dire, donc, ces femmes, elles ont peut-être la maladie d'Alzheimer dans leur cerveau, mais ce qui est très important, c'est que les symptômes de la maladie vont se déclarer plus tard.
Un peu comme si des résistances, des redondances étaient mises en place pour faire face à la maladie, pour en atténuer les effets.
Exactement. Exactement. Alors, les bases neurobiologiques de tout cela ne sont pas encore parfaitement connues. Ce sont des choses que l'on étudie notamment au Centre Cicéron, où je travaille. Et ce que l'on montre, c'est notamment que les systèmes de connexion cérébrale s'amplifient chez ces personnes qui développent une réserve cognitive importante.
Mmh. Alors, on a parlé des études, et pas seulement les études. Hein. Il y a des choses très agréables à faire. Enfin, les études, d'ailleurs, ce sont des choses agréables. Mais vous dites les relations sociales, voyager. Voyager. Pourquoi voyager ? Est-ce bien pour la mémoire ?
Oui, alors, il n'y a pas effectivement que les aspects strictement intellectuels au sens usuel du terme, mais c'est aussi, bon, on a parlé un petit peu de l'hygiène de vie, et puis c'est aussi les relations sociales. Je pense qu'il y a derrière tout ça, et vous avez utilisé le nom de voyage, le mot de voyage, il y a la notion de voyage dans le temps, le voyage vers l'autre. Et le cerveau, en fait, est un grand voyageur. La mémoire, c'est un voyage vers le passé, c'est aussi un voyage vers le futur. Et les relations sociales, c'est ce voyage vers l'autre. Et ce qu'on a montré en imagerie cérébrale, c'est que les réseaux cérébraux qui sont impliqués dans ces différents types de voyages sont en fait très proches les uns des autres. Et donc, quand on voyage, quand on a des relations sociales, c'est une façon peut-être extrêmement puissante de solliciter sa mémoire.
Une question de Larry Cover. Comment améliorer la qualité de vie des malades atteints d'Alzheimer grâce aux techniques de mémorisation ? Sont-elles adaptables à ces malades ?
Alors, il y a ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce qui se passe avant l'Alzheimer. Et donc, toute cette notion de réserve cognitive est très importante. Avoir conscience de ça dans nos sociétés. Là, on rejoint la notion de prévention, hein, qui est bien mise en avant d'ailleurs. On a évoqué l'Observatoire B2V des mémoires. C'est vraiment cette notion de prévention qui est très importante. Et puis, je pense que quand un patient a des troubles de mémoire, là, on est dans un monde un petit peu différent. Parce que soit on est au tout début d'une maladie d'Alzheimer. Dans ce cas-là, on va pouvoir aider le patient, y compris ses performances mnésiques. Mais si l'atteinte de la mémoire est beaucoup plus importante, je pense qu'il faut bien réfléchir aux objectifs. Oui. L'objectif n'est pas forcément de retrouver sa mémoire de 20 ans si on a une maladie d'Alzheimer. Mais par contre, il faut essayer d'optimiser.
La méthode des lieux que nous avons évoquée dans cette émission, est-ce que si on l'applique au tout début, aux prémices de la maladie, on peut pendant un moment retarder les effets de la maladie ?
Alors,
ou pas ?
Quand j'écoutais Timothée, je pensais à un collègue de Belgique, vous voyez, qui s'appelle Xavier Serron, et qui a développé des techniques comme ça avec des patients amnésiques. En fait, ce sont des techniques qui marchent bien avec des patients qui ont des troubles de mémoire relativement délimités, pas des grands amnésiques, parce que là, il faut utiliser encore d'autres techniques. On rentre dans des aspects un petit peu plus sophistiqués, mais ça marche bien, par exemple, avec des patients qui ont des traumas crâniens, qui ont des troubles relativement légers et qui vont parfaitement comprendre ce type de jeu. Et dans ce cas-là, ça peut avoir des intérêts, y compris dans la vie courante, pour apprendre des choses utiles dans la vie courante.
Timothée Béra.
J'ai lu il y a quelques études qui montrent que malheureusement, c'est les gens qui ont déjà les meilleures capacités à apprendre qui vont le plus bénéficier de la méthode des lieux. Et que ce soit les personnes âgées et notamment atteintes de la maladie d'Alzheimer, malheureusement, c'est les personnes qui vont le moins bénéficier de la méthode des lieux. Il y a quelques études là-dessus.
Ce qui marche surtout, ce sont les images mentales. Hein. Les images mentales sont relativement résistantes et c'est comme ça qu'on va pouvoir réapprendre certaines associations à des patients.
Mmh. Francis Eustache, la semaine prochaine, entre le 15 et le 20 septembre, se tiendra à Caen la semaine de la mémoire. En quoi ça consiste, cette semaine ?
La semaine de la mémoire, c'est à la fois des colloques spécialisés avec des chercheurs qui viennent du monde entier. Et puis c'est surtout une volonté d'interagir avec le grand public sur des sujets de mémoire, mais ceux qu'on vient d'évoquer tout de suite, les maladies de la mémoire, comment on peut aider les patients qui ont des troubles de mémoire, mais de façon plus large, c'est la mémoire sous toutes ses formes, c'est-à-dire également la mémoire collective, la mémoire des historiens, et puis la mémoire dans notre environnement moderne, avec aux prises, on pourrait dire, avec les grandes technologies de l'information.
Ouais. Il y aura même un jeu transgénérationnel où les jeunes pourront confronter leur mémoire à celle de leurs aînés. Enfin, évidemment, on n'est pas dans les championnats qu'on évoquait en début d'émission. Cécile Bonneau, je rappelle que l'on peut trouvé actuellement dans les kiosques le hors-série de Science et Vie sur la mémoire, ses secrets, ses troubles. Puis je signale également, Francis Eustache, que vous venez de publier un livre intitulé Alzheimer, fatalité ou espoir, aux éditions Le Muscadier. Nous avons mis toutes ces références sur la page de La Tête au Carré sur franceinter.fr. Dans un instant, nous allons vous donner l'occasion de tester votre mémoire et vos connaissances scientifiques, puisque Florence Porcel arrive pour un nouveau quiz scientifique. Nouveau rendez-vous de La Tête au Carré, ce sera juste après Métronomie Réservoir.
heard you at her bar with a bottle of wine. Well, you should let me know when you're home and dry. Yeah, you should let me know when you're home and dry. I heard you took an old school friend with you, the one you always said you were. Well, we can never say that we drifted far. Yeah, we should take a trip to the reservoir. Yeah, we should take a trip to the reservoir.
C'était Métronomie qui chantait Réservoir sur France Inter dans La Tête au Carré. Et c'est l'heure de tester vos connaissances scientifiques avec le quiz de La Tête au Carré. Bonjour Florence Porcel.
Bonjour Daniel.
Et nous jouons aujourd'hui avec deux nouveaux auditeurs. Bonjour Loïc et Nadège.
Bonjour.
Alors Loïc, vous avez 42 ans, vous nous appelez de Montfaucon en Velay, c'est en Haute-Loire, et vous êtes technicien. Dans quel domaine exactement Loïc ?
Électricité.
Électricité, donc des notions scientifiques au moins en physique.
Au moins, un peu en biologie.
Bon, un beau candidat. Nadège, 28 ans, de Genêt-Clan, c'est dans la Vienne. Vous êtes archiviste au CNED. Est-ce que vous avez suivi une formation scientifique, passionnée de sciences ?
Aucune, mais je suis très curieuse et votre émission m'incite à continuer.
Bon, eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, Florence, cette semaine, c'est un très beau livre qui est en jeu.
Oui, et on joue pour vous offrir La Terre vue de l'espace des éditions Hachette. Et c'est évidemment Loïc et Nadège, celui ou celle d'entre vous qui aura accumulé le plus de points qui remportera ce beau cadeau.
Eh bien, alors, on commence tout de suite avec, comme toujours, la question d'actualité. Florence, pas hyper récente cette chanson pour illustrer la question d'actualité.
Non, j'avoue, c'est une question qui a presque 50 ans quand même. Mais c'était juste un petit clin d'œil parce qu'on vient d'entendre les Rolling Stones. Et Rolling Stones en français, ça veut dire les pierres qui roulent. Et justement, les scientifiques ont enfin résolu un mystère vieux de 70 ans qui concerne justement des pierres qui semblaient se déplacer toutes seules sur un terrain très plat.
Et alors du coup, quelle est la question ?
Alors la question, Loïc et Nadège, c'est... Comment s'appelle le parc national où se trouvent ces rochers qui se déplacent ? Vous avez 30 secondes.
La vallée de la mort ?
Mais oui, c'est une bonne réponse pour Nadège qui a été très rapide.
Mais c'est truqué ce jeu, c'est pas quoi ? Comment vous savez ça, Nadège ?
Vous avez suivi l'actu ces derniers jours.
J'ai eu la chance de m'y rendre cet été et cette information m'avait beaucoup étonnée.
Voilà, donc la vallée de la mort qui se trouve aux États-Unis à cheval sur la Californie et le Nevada.
Oui, et vous avez sûrement déjà vu, hein, même Loïc, des photos de ces rochers avec la trace de leur parcours derrière eux sur ces terrains arides, hein, de la vallée de la mort. Et donc ça y est, avec des appareils photo et des GPS, les chercheurs ont pu en suivre quelques-uns pendant 2 mois et ils ont découvert que quand une fine couche de glace commence à fondre sous les pierres, le vent les fait glisser et elles avancent, elles font un peu du surf en fait, en quelque sorte.
Très belle image, voilà. Florence, que vous nous donnez là. Qui gagne donc, c'est Florence qui est, Nadège qui est en tête avec,
oui, avec
les 10 premiers points.
Du
Loïc,
coup...
vous êtes prévenu, il va falloir être vif si vous voulez pouvoir rivaliser.
J'ai compris, ouais. J'ai lu l'info, mais j'ai compris.
Allez, on passe maintenant aux questions de rapidité, justement, où vous allez devoir répondre le plus rapidement possible à cette question avec un ordre croissant de difficultés, Florence.
Et je rappelle que si une question pose problème, on peut passer à la suivante et y revenir après.
Vous avez 1 minute 30, c'est parti.
Quel fruit porte le même nom qu'un oiseau de Nouvelle-Zélande ?
Le kiwi.
Oui. Quel film de science-fiction se base sur la légende urbaine postulant qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau ?
Celui du nouveau Besson.
Pardon, Nadège ?
Lucie.
Oui, absolument. Quelle technique d'analyse basée sur la parole Freud a-t-il mise au point ?
La psychanalyse.
Je crois que c'est Nadège qui a donné la réponse.
La psychanalyse.
Oui. Quel modèle permet aujourd'hui d'expliquer la théorie de la dérive des continents ? Loïc ?
Oui.
Oui.
On sent que vous l'avez sur le bout de la langue.
On passe à la suivante, si vous voulez. Autour de quelle planète tourne Titan?
Jupiter.
Non.
Saturne.
Oui, c'est pour Loïc. Quelle pandémie s'est abattue sur l'Europe au XIVe siècle?
La peste.
Quelle, pardon?
La peste comment?
La peste bubonique.
La peste noire?
Bon, la on va vous donner noire. Les points tous les deux parce que c'était la bonne réponse. Dernière question. Quel mathématicien anglais est généralement considéré comme le père de l'informatique?
Alex Turing.
Oui, Loïc. Donc, on repasse à la question 4. Quel modèle permet aujourd'hui d'expliquer la théorie de la dérive des continents?
La tectonique des plaques.
Oui, on va vous le donner à tous les deux parce que je crois que vous aviez répondu tous les deux à la bonne question.
C'est donc la fin du chrono et puis vous avez répondu à toutes les questions. On fait un point sur les scores avec ces deux candidats brillants.
Alors, pour la deuxième manche, il me semble donc que Nadège a eu 20 points et Loïc 25 points. Voilà, ce qui fait au total 30 points pour Nadège et 25 points pour Loïc. C'est très serré, hein.
Vous allez donc maintenant jouer l'un contre l'autre. On vous a donné un mot hors antenne qu'il va falloir faire deviner à votre adversaire.
Oui, et ensuite vous échangerez les rôles, hein, bien sûr. Est-ce qu'on commence par Nadège, par exemple?
Eh bien, allons-y avec Nadège. Nadège, vous avez 45 secondes pour faire deviner votre mot à Loïc.
D'accord. Alors, il s'agit d'une transmission de caractère génétique que l'on passe d'une génération à l'autre.
Pardon, Loïc? Non.
On n'est pas loin.
Non. C'est le nom de la transmission. Le nom de la transmission génétique.
La mitose. Que les parents transmettent à leurs
enfants. Non, moins compliqué que ça.
L'hérédité.
Oui. Ce fut unanime entre Daniel et moi.
Oui, en cœur. On était de tout cœur avec vous, Loïc. À votre tour, donc, Loïc, vous êtes prêt. C'est à vous. Vous avez 45 secondes.
Oui, donc c'est un système d'imagerie médicale qui a été inventé au début du XXe siècle, qui permet de détecter des fractures, qui a été imaginé par Röntgen.
La radiographie?
Oui, c'est la radio, mais
l'IRM, c'est l'IRM ou le scanner?
Non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Mais c'est ce qui permet de détecter, de faire de l'imagerie. C'est le système qui permet de faire l'image.
Oui. Il s'agissait effectivement des rayons X, un type de rayonnement électromagnétique à haute fréquence et à haute énergie. Qui est le gagnant d'aujourd'hui, Florence?
Eh bien, c'est Nadège avec 40 points contre 35 pour Loïc, qui n'a pas à rougir de sa prestation, hein, parce que c'était très très serré. Hein.
Effectivement. Qu'est-ce que gagne Nadège alors?
Eh bien, Nadège repart avec La Terre vue de l'espace des éditions Hachette, un beau livre d'images satellites assez spectaculaire. Voilà, vous m'en direz des nouvelles.
Oui, merci d'avoir joué avec nous, Loïc et Nadège. C'était un plaisir.
Également.
Au revoir à tous les deux.
Merci,
Florence.
Beaucoup.
On se retrouve demain pour un nouveau quiz scientifique.
Mais oui, à demain, Daniel.
Et désormais, vous pouvez laisser vos messages vocaux sur le répondeur de La Tête au Carré qui est à votre disposition. Intervenez, réagissez, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les dossiers que nous vous proposons. Donnez-nous également vos infos sciences, suggérez-nous des thèmes d'émissions que vous aimeriez voir abordés dans La Tête au Carré. Soyez drôles, méchants, curieux et surtout scientifiquement irréprochables, on y tient. Nous diffuserons bien sûr vos messages tous les jours à l'antenne. Un numéro de téléphone à composer pour le répondeur de La Tête au Carré, 01 56 40 69 47.